Maintenant, on va entendre le message de la parole de Dieu ce matin par notre pasteur, ancien pasteur Célestin Oufouet, que j'invite maintenant.
Bonjour à tous. Ce matin, le message va porter sur l'arrestation d'Étienne. Donc, dans le livre de Actes au chapitre 6, donc du verset 8 au verset 15. Pour situer notre texte, et nous avions vu les séances passées ou les enseignements derniers que l'Église croissait et le nombre de disciples aussi grandissait. C'est-à-dire le nombre de croyants qui avaient mis leur confiance en la parole du Seigneur, qui ont cru que Jésus-Christ est venu mourir pour eux à la croix, a commencé par grandir. Et nous avions vu dimanche dernier que même ceux qui mettaient leur confiance dans la loi de Moïse, qui étaient garants de cette loi-là, c'est-à-dire les sacrificateurs parmi eux, une grande foule se joignait donc à ceux qui avaient la foi en Jésus-Christ. Et le nombre de disciples donc grandissait au niveau de l'Église. Alors, pour répondre à cette croissance-là, suite à une situation qui s'était prévue, les disciples ou les apôtres vont décider que des hommes soient mis à part. Donc, sept hommes soient mis à part pour aider à la distribution aux tables, afin d'éviter les querelles. Et nous avions vu que sept personnes ont été choisies. Et parmi les sept personnes qui avaient été choisies, il y avait donc Étienne. Mais dans le choix de ces personnes, certaines caractéristiques étaient donc demandées. Notamment, fallait que ces personnes aient un bon témoignage, qu'elles soient remplies d'esprit et qu'elles soient remplies aussi de sagesse. Et Étienne, dans la catégorie de ces personnes qui avaient été choisies, on nous dit qu'Étienne était plein de foi et d'esprit saint. Et par Étienne aussi, par lui, des prodiges et des miracles vont s'accomplir. Ce qui va susciter au sein de la population ou au sein des membres de la synagogue une certaine aversion contre Étienne. Mais en réalité, cette aversion n'était pas contre Étienne, mais c'était plutôt contre la parole ou le message que portait Étienne. Pourquoi le message que portait Étienne? Parce qu'en réalité, le message que portait Étienne était un message qui était différent des leurs. C'était un message qui était pratique. Un message qui touchait à la vie du peuple. Il rejoignait le message de son maître Jésus. C'était un message concret, un message porteur de vie, un message d'espérance qu'Étienne apportait. Donc au lieu que ce soit un message qui était fondé sur la loi de Moïse, Étienne va apporter un message qui était plutôt fondé sur la foi en Jésus-Christ. Et cela va susciter donc une opposition dans la communauté, notamment dans la communauté juive, avec certains membres de synagogue qui vont se lever contre Étienne. Lisons notre texte pour Actes chapitre 6, à partir du verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, dites des affranchis, de celle des Cyréniens, et de celle des Alexandrins avec des Juifs de Cilicie et d'Asie se mit à discuter avec lui. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors il soudoyait des hommes qui dirent : Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, il le saisit et l'amenèrent au Sanhédrin. Il produisit de faux témoins qui dit « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur apparut comme celui d'un ange. Donc voici le décor ici planté entre Étienne et ces Juifs qui vont se lever contre lui. Et lorsque nous lisons le verset 8 nous montre qui est Étienne en réalité. Donc d'abord on retient qu'Étienne était un disciple de Jésus-Christ. Donc Étienne a accepté Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Donc, il fait confiance à la loi de Jésus-Christ. Et il reconnaît aussi que non seulement Jésus-Christ est venu mourir pour ses péchés, mais il reconnaît aussi que Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour. Étienne espère qu'un jour, il va rencontrer son Seigneur. Il avait un bon témoignage parmi le peuple. Il était plein d'Esprit Saint et de sagesse, plein de foi, plein de grâce et de puissance. Au niveau de ses activités, Étienne ne se limitait pas seulement à servir au tal, parce que nous avions dit qu'il avait été choisi, il était parmi les sept qui avaient été choisis pour aider, pour servir au tal, pour permettre aux disciples, pendant que le service au tal se fait, pour permettre aux disciples donc de vaquer à la prière, de vaquer au service de la parole de Dieu, pendant que les sept allaient s'occuper donc de la distribution aux tables. Mais lorsqu'on lit le texte, on se rend compte que le rôle d'Étienne n'était pas seulement limité au service à la distribution aux tables. On nous dit qu'il faisait des miracles, des prodiges et de grands miracles aussi parmi le peuple. Donc Étienne était aussi était témoin de la parole du Seigneur. Il témoignait de la bonté, de l'amour de Jésus dans la vie des gens. Et la manifestation de ce témoignage d'Étienne-là, c'était l'accompagnement de miracles et de prodiges qui se faisaient de par sa main. Mais en réalité, Dieu agissait et Dieu apportait des transformations dans la vie à partir de la vie d'Étienne. Donc, Étienne, serviteur de Dieu, est donc une bénédiction non seulement pour l'Église, mais aussi pour le peuple. Donc, ses activités intéressent des membres des synagogues qui vont former une coalition pour discuter avec Étienne. Donc, Étienne, dans ses activités, va attirer l'attention sur lui. En réalité, c'est l'Esprit de Dieu qui attire l'attention sur Étienne parce qu'Étienne parle de la part de Dieu. Étienne vient avec un nouveau message, un nouveau enseignement, mais cela dérange les messages précédents qui existaient dans la communauté. Au verset 9, on nous dit « Quelques membres de la synagogue dites des affranchis et celles des Syriens et celles des Alexandrins avec des Juifs de Cilicie et d'Asie se mirent à discuter avec lui. » Donc, on voit ici des membres de synagogue, donc des personnes qui aussi avaient foi en quelque chose, qui avaient foi plutôt dans la loi de Moïse, qui mettaient leur confiance dans la loi de Moïse. Voyant ce qui se passait autour d'eux, ces personnes vont décider de pouvoir donc aller discuter avec Étienne. Donc, avoir un débat avec Étienne, certainement sur ce que Étienne disait, sur l'enseignement qu'apportait Étienne. Et on nous donne ici différentes connotations des membres. On nous parle des membres de la synagogue dite des affranchis. Donc ici, lorsqu'on regarde l'ensemble ici, il faut noter qu'il s'agit de la diaspora juive. Donc des personnes qui, à un moment donné, pour des raisons quelconques, vont quitter leur pays pour aller vivre ailleurs. Et ceux-là, donc, vont revenir à Jérusalem. Et quand ils reviennent à Jérusalem, ils vont s'assembler certainement par culture de la ville là où ils étaient, ou du pays dans lequel où ils étaient. Ils vont s'assembler peut-être par lieu géographique, ils vont s'assembler pour des raisons linguistiques aussi, certainement. Donc, ils vont s'assembler selon leur origine. Et on nous parle premièrement de la synagogue dite des affranchis. La synagogue dite des affranchis serait composée de Juifs déportés à Rome comme prisonniers de guerre qui par la suite ont été libérés et qui sont revenus à Jérusalem. On nous parle de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins. Donc les membres de la synagogue des Cyrénéens avaient vécu, eux, en Cyrène, donc autour de la Libye. Donc avaient vécu en Cyrène et puis ils sont revenus à Jérusalem. On a ceux qui sont venus de la synagogue des Alexandrins, eux qui sont venus de l'Alexandrie, donc en Égypte certainement. Et les Juifs de Cilicie et d'Asie provenaient de deux provinces romaines en Asie mineure. Et on va le voir peut-être plus tard, la ville de Tarse. Donc la ville de Tarse, qui est la ville natale de l'apôtre Paul, provenait donc de la province de Cilicie. Donc, nous verrons plus tard la contribution de Paul dans la persécution de l'Église. Mais au-delà de je dirais, au-delà des membres des synagogues, ça et là, qu'on cite pêle-mêle, et lui, au-delà du nombre ou au-delà de leur origine, ce que nous pouvons retenir, c'est qu'il y a eu une cohorte de membres de synagogues juifs de la diaspora qui, malgré certainement leurs différences culturelles, leurs différences linguistiques ou leurs différences de zones géographiques d'où ils venaient, ils vont former donc une coalition pour affronter Étienne dans le débat, pour affronter Étienne dans la discussion. Alors, le débat est engagé. Et le résultat du débat, au verset 10. Au verset 10, on nous dit, « Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. » Donc, on voit Étienne ici qui a de l'adversité. Donc, dans un débat, certainement qu'Étienne était peut-être éloquent. Peut-être Étienne avait de bonnes dispositions linguistiques ou avait de la connaissance pour pouvoir débattre avec ses différents adversaires qui sont arrivés. Mais un élément très important qui est souligné ici, on dit qu'il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Étienne ne parlait pas, c'est vrai peut-être qu'il avait de la compétence, mais Étienne ne parlait pas pour donner gloire à son nom, mais il parlait par l'esprit de Dieu. Il parlait avec la sagesse de Dieu. Donc, la sagesse de Dieu, l'esprit de Dieu, permettait à Étienne de dominer et d'avoir la victoire sur ses adversaires dans le débat qu'ils avaient engagé. Certainement, le contenu du débat portait sur la loi de Moïse, sur Dieu et sur la résurrection et sur la bonne nouvelle de Jésus. Étienne ne parlait pas par lui-même, mais par l'esprit de Dieu, tandis que certainement, à l'opposé, les autres s'appuyaient sur toute leur capacité et leur sagesse humaine. Donc, sur leur compétence, leur connaissance de la loi de Moïse. Tandis qu'Étienne s'appuyait sur la sagesse de Dieu. Il ne s'inquiétait pas de ce qu'il allait dire ni de ce qu'il allait répondre, parce que les réponses étaient toutes faites. Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour nos péchés et il le démontre. Donc, il n'avait pas besoin de s'appuyer sur une connaissance exceptionnelle, mais il avait un message à porter. Oui, il dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Acte 1, au verset 8. Donc, mes témoins à Jérusalem et au-delà, jusque partout dans le monde. Donc, Étienne était témoin de Jésus-Christ. Étienne était témoin de Jésus-Christ, et c'est ce qui dérangeait ses adversaires. Il parlait par la puissance et par la sagesse de Dieu. Donc, ses adversaires ne pouvaient pas lui résister pendant le débat qu'ils ont eu. Donc, face à leur échec, ils vont trouver d'autres moyens. Ils vont utiliser un autre moyen pour vaincre Étienne. Parce qu'au niveau du débat, au niveau de la connaissance ou de Dieu, de Jésus-Christ qu'il partageait, Étienne était supérieur parce qu'il parlait avec la sagesse de Dieu. Alors, ils vont trouver le moyen d'accuser Étienne devant le Sanhédrin, la haute autorité juridique juive de la cité en ce moment. Et nous allons voir quel était le contenu donc de leur accusation à partir du verset 11. Le verset 11 dit, « Alors ils soudoyaient des hommes qui disent, « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent devant le Sanhédrin. » Donc, pour s'y prendre, les adversaires d'Étienne vont corrompre la population afin d'inventer des mensonges contre Étienne. Toute cette démarche nous rappelle aussi la démarche contre le Seigneur Jésus. Nous avions vu les pharisiens, nous avions vu les sadducéens qui, fondamentalement, dans leur doctrine, vont avoir des divergences, mais qui vont se mettre ensemble pour accuser Jésus. Donc, on va comprendre que l'une des ruses du diable aussi, c'est de, malgré les oppositions que les gens peuvent avoir, il va les associer pour se lever contre l'Église de Jésus. Il va les associer pour se lever contre la parole de Dieu. Et l'on se rend compte que c'est ce que le Seigneur a vécu qui est en train de se produire ici. Donc, nous constatons les mêmes adversités. Cette démarche montre le début, je ne dirais pas le début, parce que le début de la persécution a commencé déjà même avec les disciples dans les passages précédents, mais montre effectivement que l'Église est en pleine persécution. Le contenu de l'accusation portait donc sur des paroles blasphématoires. Donc, ils accusaient Étienne de proférer des paroles blasphématoires contre Dieu et contre Moïse. Ils accusaient Étienne de dire des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Et ils accusaient Étienne de dire que Jésus a déclaré qu'il changera les coutumes que Moïse a données. Mais c'était un gros blasphème pour les Juifs. C'était un gros blasphème même pour les sacrificateurs. Mais ce qui est impressionnant, ce qui est bon dans tout ce qu'on regarde, malgré ces choses, la parole de Dieu progresse. Et même dans le rang des sacrificateurs, des conversions sont en train de s'accomplir. Et cela dérangeait les responsables des synagogues. De voir que des sacrificateurs, des hommes qui étaient assidus à ou attachés à la loi de Moïse, étaient en train de se tourner vers la foi en Jésus-Christ. Donc, il fallait trouver les moyens afin que cela puisse s'arrêter. Malheureusement, ils n'avaient pas compris que la parole de Dieu, on ne peut pas l'arrêter. Donc, les témoignages et les témoins étaient montés de toutes pièces. Donc, c'était des témoignages faux, c'était des témoins faux aussi que ces Juifs de la diaspora vont monter contre Étienne. Il produisit de faux témoignages qui dit « Cet homme ne cesse de dire des paroles contre le lieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Mais pour le Juif, dire ces choses-là, c'est grave. C'est grave, dire ces choses-là. Et au verset 12, on nous dit « Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes. Et se jetant sur lui, il le saisit et l'amenait au Sanhédrin. » Étienne est conduit donc devant le Sanhédrin. Et c'est le début de la marche vers cette belle promesse qu'a faite le Seigneur Jésus, non seulement aux apôtres, mais aussi à ceux qui le suivraient. La belle promesse. Dans Marc au chapitre 10, les versets 29 à 30. Lorsque Jésus ayant discuté avec le jeune homme riche, qui voulait marcher avec lui, et arrivé un moment, Jésus lui dit, « Ah, c'est vrai, tu suis les commandements, c'est bien, mais va, vends tes biens et puis reviens. » On nous dit qu'il était triste, et dans sa tristesse, il est parti. Et le Seigneur dit qu'il est plus aisé pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un homme riche. Et suite à cela, les disciples autour du Seigneur vont commencer par se poser mille et une questions. « Ah, mais qui peut être sauvé dans ces conditions? C'est difficile. » Alors, ils discutent, et puis le fougueux Pierre va prendre la parole. Il dit, Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » On a abandonné tout. Ceux qui peut-être certains avaient des plans de mariage, des plans de voyage et plein d'autres choses et des plans de travail, plein d'autres choses. Il dit, on a tout abandonné, Joe, on a tout abandonné. Il dit, on a tout abandonné et nous t'avons suivi. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, il n'y a personne qui ait quitté maison, ou frère, ou sœur, ou mère, ou père, ou enfant, ou champ, à cause de moi et à cause de l'Évangile, qui ne reçoive maintenant, en ce temps-ci, 100 fois autant maison et frère et sœur et mère et enfant et champ. » Je vais m'arrêter là d'abord avant de continuer. Donc, le Seigneur dit à Pierre, c'est vrai, peut-être vous avez tout quitté. Et puis peut-être que vous regrettez tout cela, mais ce n'est pas grave, je suis avec vous. Je vous dis que malgré cela, vous aurez des frères, vous avez quitté des frères, mais vous aurez des frères, des multitudes de frères même, vous aurez des sœurs, vous aurez des maisons et tout cela. C'est moi qui vous le promets. À la suite du verset dit, « Avec des persécutions, dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Donc, il ajoute, souvent on va citer le verset, et puis on va s'appuyer sur, « Ah, mais on sera béni au centuple, on aura des maisons au centuple, on aura des frères au centuple, des sœurs au centuple. » Mais on laisse tomber la partie de la persécution. Mais il a dit « et avec des persécutions ». Il dit « et avec des persécutions ». Certainement, Étienne était informé, ou les disciples avaient cette compréhension que dans l'œuvre dans laquelle on s'engage, celui que nous sommes en train de suivre, c'est vrai qu'il y a des promesses de paix, des promesses de bonheur. Mais dans toutes ces promesses de paix et de bonheur, il y a aussi la persécution qui pourrait venir. Oui, le Seigneur savait que la persécution viendrait et il a pris le temps de préparer ses apôtres, de préparer ses disciples, d'avertir son Église. Et des fois, on peut nous faire croire que quand on a accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, notre Sauveur, tout est rose. Mais on nous dit, des fois, il peut y avoir des persécutions. Certainement, on peut avoir une paix relative. On peut vivre dans une paix relative. Je dis relative parce que tout peut changer. On était tous tranquilles dans le monde et puis un coup, coronavirus est arrivé. Aujourd'hui, tout le monde est masqué. Vous comprenez cela? Donc, nous sommes dans une paix relative. Là où nous vivons, mais ailleurs, on a des frères qui perdent la vie. On a des frères qui sont emprisonnés. On a des frères et sœurs qui sont interdits de travailler. On a des frères et sœurs qui se cachent pour pouvoir lire une portion de la parole de Dieu. Pas parce que ces personnes ont commis des atrocités, des vols, des méchancetés. Non, mais simplement parce que ces personnes ont fait le choix d'accepter Jésus comme leur Sauveur et leur Seigneur, de marcher selon la loi, la foi en Jésus-Christ. Pour ne pas aller trop loin, combien de frères musulmans ne sont-ils pas persécutés parce que simplement ont accepté Jésus-Christ comme leur Sauveur? Donc la persécution aussi faisait partie des avertissements que le Seigneur donnait à ses disciples, des avertissements qu'il nous donnait en tant que chrétiens afin que nous puissions nous préparer. Oui, la persécution pourrait venir. Mais le Seigneur voudrait que nous puissions être prêts. Étienne était préparé par rapport à cela. Donc, n'oublions pas que la persécution est un aspect de ce que nous pourrions vivre sur cette terre présente. Mais la fin du verset est très édifiant pour chacun de nous. Il nous dit « dans le siècle à venir, la vie éternelle ». Et l'objectif des apôtres, l'objectif d'Étienne. L'objectif de chaque chrétien que nous sommes devait être la vie éternelle. Amen. L'objectif devait être la vie éternelle. La persécution pourrait venir, ou des difficultés, nous pourrions les connaître. Nous sommes sur terre. Les maladies quelconques, nous pourrions les connaître. Mais la chose la plus importante qu'on doit garder, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'était cela l'objectif d'Étienne. Le plus grand miracle, on nous dit qu'il faisait des prodiges. Par ses mains, s'accomplissaient des miracles. Mais le plus grand miracle dans la vie d'Étienne, c'est qu'il ait rencontré Jésus comme son Sauveur et son Seigneur. Et le plus grand miracle dans ma vie, le plus grand miracle dans ta vie, c'est que tu aies rencontré Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. Et je veux m'adresser à toi qui ce matin certainement est en train de nous écouter. Si tu n'as pas eu l'occasion de faire la rencontre avec lui, tu n'as pas eu l'occasion d'accepter Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur, si tu entends sa voix, la Bible déclare, n'endurcis pas ton cœur. Mais c'est de l'accepter comme ton Sauveur et ton Seigneur. Oui, pour avoir la vie éternelle. Parce que la perdition éternelle est pire même que la persécution qu'on pourrait connaître sur terre. Je veux ouvrir cette lucarne pour dire, frères, pensons aussi à nos frères. Dans nos prières, pensons à nos frères qui sont persécutés. Pensons à nos frères en Corée du Nord, en Afghanistan, dans bien d'autres pays où ils sont persécutés. Prions pour eux afin que le Seigneur leur donne la force de résister. Que le Seigneur puisse leur donner la joie même pendant ces moments difficiles de persécution. Et que le Seigneur permette que pendant les persécutions, sa parole puisse fleurir et que des conversions germent encore davantage dans ces pays-là. Oui, prions le Père pour nos frères et sœurs persécutés, afin qu'ils soient fortifiés, afin que leur persécution fasse germer de nouvelles conversions là où ils sont, afin qu'ils soient encouragés. Au verset 15, quelque chose se passe au niveau du Sanhédrin. Donc, Étienne est arrêté, il est amené devant donc, le Sanhédrin. Donc, comme on a dit, c'est la haute autorité juridique juive qui est chargée donc, de régler certaines affaires qui ne peuvent pas être résolues, je vais dire, au bas niveau de la société. Donc, ils vont porter cela devant le Sanhédrin. Et le Sanhédrin, comme tribunal suprême des Juifs, était composé d'environ 71 membres, dont les scribes, les sacrificateurs, les pharisiens, les sadducéens, avec à leur tête le grand prêtre, c'est-à-dire le souverain sacrificateur. Donc, c'est cela, la composition du Sanhédrin. Donc, Étienne va devant ces personnes-là. Mais Matthieu 10, 16 à 19 nous dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Et soyez en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous flagelleront dans leur synagogue. Et vous serez menés même devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, pour leur être en témoignage à eux et aux païens. Mais quand ils vous livreront, ne soyez point en souci de la manière dont vous parlerez ou de ce que vous direz, car ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. » Donc, c'est l'accomplissement de ces choses qui est en train de se manifester avec Étienne. Il est amené donc devant le tribunal juif, le tribunal suprême juif, qui était composé, donc, comme je l'ai dit tantôt, de scribes, de sacrificateurs, donc de personnes qui étaient versées dans la loi, de personnes qui avaient de la compétence dans la loi de Moïse. Donc, de personnes qui non seulement avaient de la compétence de la loi de Moïse, mais qui étaient des autorités aussi dans leur ville, dans leur cité, des personnes qui certainement étaient respectées. Donc, c'est devant ces personnes-là qu'Étienne est convoqué et il va se tenir. Donc, ceux des membres du Sanhédrin, donc, qui siégeaient dans l'affaire d'Étienne contre ses adversaires, ont été marqués par l'aspect de son visage. Donc, à cet instant précis, quelque chose se passe au milieu d'eux. On nous dit, fixe, les membres du Sanhédrin vont fixer les regards sur Étienne. Et pendant qu'ils fixent les regards sur Étienne, quelque chose se passe. Il compare ici le visage d'Étienne à celui d'un ange. On n'est pas en train de nous dire qu'Étienne est devenu un ange. Mais on dit son visage a eu l'aspect du visage d'un ange. Donc, on voit ici quelqu'un qui est accusé de blasphémer contre Dieu. Il a son visage qui vient refléter la gloire de Dieu. On voit ici quelqu'un qui est accusé de manipuler ou de rejeter la sainteté de Dieu. On voit ici que son visage reflète la sainteté de Dieu. Et la manifestation du visage d'Étienne nous rappelle la manifestation du visage aussi de Moïse. D'Exode. Donc, l'éclat du visage d'Étienne venait donner l'approbation de son enseignement. Et les membres du Sanhédrin fixaient leur regard donc sur Étienne. On dit, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé leur regard sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Ils étaient donc stupéfaits de voir celui qu'on accusait de tout, blanchi par l'Esprit de Dieu, blanchi par Dieu lui-même. Mais est-ce que cela va empêcher les membres du Sanhédrin d'avancer dans leur démarche avec Étienne, dans leur démarche d'accusation avec Étienne? Ça, on pourrait le voir les semaines à venir. Mais ce qu'on peut retenir pour aujourd'hui, c'est que la persécution avait commencé. L'Église a commencé par ressentir la persécution. Peut-être elle n'était pas encore forte ici, mais elle se manifestait par des oppositions déjà au message de la parole de Dieu. Nous aussi, soyons conscients que le message qu'on porte pourrait avoir des oppositions s'il n'y a pas déjà des oppositions. Oui, que notre paix relative ne nous empêche de voir que des oppositions sont manifestes à la parole de Dieu. Mais malgré les persécutions, dans les persécutions, retenons que le Seigneur a tout prévu. Il nous a déjà avertis. Non seulement il nous a avertis, mais il nous accompagne dans cela. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonne pas est la manifestation du rayonnement du visage d'Étienne. C'est-à-dire, malgré les accusations, Dieu était avec lui. Malgré les faux témoins, malgré les voix du moins qui se levaient contre lui, la présence de Dieu était manifeste pour Étienne. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que la présence de Dieu est aussi manifeste pour toi. Je ne sais si une personne passe par une persécution en ce moment à cause de son choix en Jésus-Christ. Mais je veux te dire, si tu passes par une persécution à cause de ton choix en Jésus-Christ, sache que le Seigneur est avec toi et la vie éternelle est ton partage. Ce matin, que le Seigneur nous bénisse et que nous soutienne dans notre marche avec lui. Et quelles que soient les oppositions, Dieu est avec nous. Dieu marche avec nous. Il nous conduit, il nous assiste. Certainement qu'on entendra dire que Dieu nous donnera au centuple après notre conversion à Jésus-Christ. Oui, Dieu nous bénit comme il veut. Mais n'oublions pas que cela pourrait aussi des fois venir avec des persécutions. Que notre foi ne défaille point. Croyons en Dieu. Croyons en notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Prions. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci dans ta grâce, toi qui es fidèle, toi qui soutiens ton Église. Merci Seigneur Dieu pour la vie de chacun de nous. Je veux te prier afin que tu nous donnes de garder la foi en toi, quels que soient les moments. Seigneur, dans la disette comme dans l'abondance, permets que notre foi soit attachée à toi. Pour nos frères qui vivent dans des pays ou des zones où la persécution est grande, Père, nous voulons ce matin nous associer à eux pour dire, Seigneur, fortifie-les. Prends soin d'eux, aide-les dans ta grâce, dans leur marche avec toi. Seigneur, pourvois leurs besoins, quels qu'ils soient, s'il te plaît, et que la gloire et l'honneur puissent te revenir. Seigneur, garde ton Église et bénis ton Église, Seigneur, par ta grâce. Merci pour ta fidélité. Seigneur, je te prie aussi pour cette période de confinement dans laquelle nous sommes, où beaucoup de mesures sont prises. Seigneur, fortifie nos foies et permets qu'on demeure attaché à toi, s'il te plaît. Béni sois-tu, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour les responsables d'Église, pour les musiciens, merci pour toutes ces personnes qui s'engagent chaque jour à être présents, Seigneur, afin que ta parole puisse être propagée. Merci. Bénis leur vie et prends soin d'eux, Seigneur, dans ta grâce. Merci pour ta fidélité. Bénis ton Église au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.